Philosophe, une série de France Inter pour comprendre, découvrir ces grandes figures, ces révolutionnaires dont les idées, les concepts ont changé la manière de voir et vivre le monde. Emmanuel Kant. Né en 1724 à Königsberg, en Prusse, c'est là aussi qu'il mourut en 1804, contemporain de Rousseau, Mozart, Frédéric II de Prusse. Emmanuel Kant, avec un philosophe, professeur à l'école polytechnique et auteur de Kant et l'équivoque du monde aux éditions CNRS. Bonjour Michael Fessel.
Bonjour.
Kant, révolutionnaire, est sans doute le plus grand des révolutionnaires, mais c'est un paradoxe par lequel on va commencer. C'est sans doute de tous les philosophes celui qui a eu la vie apparemment la plus ennuyeuse. Il n'a quasiment jamais quitté son lieu de naissance, il n'a jamais été marié, on ne sait même pas s'il a connu l'amour un jour dans sa vie. Mais il a lu Rousseau, qui écrivait « Nous vivons le siècle des révolutions ». Et lui-même, Kant, écrira « Notre siècle, c'est le siècle de la critique à laquelle toutes les autorités doivent se soumettre ».
Ben, les révolutions pour Kant, c'est d'abord des révolutions intérieures. C'est par conséquent des révolutions qui n'impliquent pas forcément de participer activement à ce qui se produit. Mais Kant a été un spectateur engagé dans les mutations de son siècle, ou de la fin du XVIIIe siècle. Et s'il est révolutionnaire, il faut d'ailleurs noter qu'il est révolutionnaire sur le tard. Parce que vous l'avez rappelé, Kant est né en 1724, mais il devient kantien, c'est-à-dire il transforme sa philosophie très tardivement, puisqu'il publie son premier grand livre original, La critique de la raison pure, en 1781. Et donc, s'il est révolutionnaire, c'est d'abord au sens où une révolution, c'est ce qui fait que ce qui arrivera après ne pourra plus être comme avant. Et dans le champ de la philosophie, de toute façon, qu'on aime ou qu'on n'aime pas Kant, on ne peut pas, au fond, faire comme si rien ne s'était passé. Et ensuite, il est révolutionnaire dans un sens où il... Quand il désigne sa propre philosophie, tard venue, donc la critique de la raison pure, il se réfère à la révolution copernicienne.
Alors justement, on va en parler parce que il est révolutionnaire au sens, donc vous le disiez, de spectateur, et il assistera à la révolution de 1789 au moins comme lecteur de journal, puisqu'on dit que dans sa routine quotidienne, l'une des deux seules fois où il a dérogé à son rituel, c'était pour aller acheter la gazette qui annonçait la révolution française. Mais cette révolution, il la qualifie, la révolution qu'il accomplit dans l'ordre de la philosophie, il la qualifie donc de copernicienne. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire ?
Ben que ça renvoie évidemment à Copernic, c'est-à-dire à celui qui a montré que, contrairement à ce que l'on pensait jusque-là, ce n'était pas la Terre, et par conséquent l'humanité, qui était au centre de l'univers, ou en tout cas au centre de notre système de planète, mais le Soleil. Et donc, au fond, révolution ici, d'abord le terme révolution renvoie aussi à un vocabulaire de l'astronomie, la révolution des astres, c'est le mouvement des astres. Et révolution, ici, cela veut dire qu'on change radicalement le centre depuis lequel nous pouvons parler. Alors, désormais, il faut donc considérer que le Soleil est au centre de notre système de planètes. Voilà ce qu'a montré Copernic. Et Kant, au fond, par analogie, dit « Moi, je vais montrer que nous sommes, nous, les sujets, spectateurs, justement, en quelque sorte, les sujets humains, nous sommes au centre du savoir. » C'est-à-dire qu'il ne faut pas considérer qu'il faut penser d'abord l'objet, la matière, le monde. Il ne faut pas partir du monde en philosophie pour essayer de déterminer ce qu'il signifie, quelle est sa taille, quelle est sa grandeur, quelle est son essence. Il faut partir du sujet qui perçoit et qui pense.
Et ça, on va en y venir. Mais d'abord, vous avez cité l'un de ces trois chefs-d'œuvre, Critique de la raison pure. Il y aura la Critique de la raison pratique, puis la Critique de la faculté de juger. Impossible, en plein siècle des Lumières, on pense à Kant et on pense forcément à ce mot de critique. Est-ce qu'on peut le définir ? Parce que ça n'est pas uniquement s'opposer, dire du mal de toute chose.
La critique n'a pas seulement, et même pas d'abord, un sens négatif pour Kant. Simplement, il faut avoir à l'esprit, je crois, que quand on parle aujourd'hui de faire de la philosophie, on l'associe le plus généralement, en tout cas ceux qui soutiennent la matière, à forger quelque chose comme un esprit critique. La philosophie, c'est une manière d'interroger le réel, de soupçonner aussi les discours qui visent à le légitimer. C'est une manière manière de remettre en cause nos certitudes, nos croyances. Oui. Et on a tendance à penser que c'est la nature même de la philosophie depuis le début. Or, ce n'est pas tout à fait exact. C'est proprement la philosophie moderne, alors ça commence avec Descartes, mais qui va s'appeler critique à partir de Kant. Et alors, critique, ici, ça veut dire, dans un premier temps, remettre en cause les savoirs qui apparaissent les plus établis, les connaissances certaines, les connaissances même de la science ou de la philosophie, c'est-à-dire opérer d'abord ce qu'on appellerait une tabula rasa, une table rase. On remet en question toutes nos opinions, tous nos savoirs tels qu'ils sont hérités par le passé.
Même s'ils nous ont été transmis par la religion, même s'ils ont été transmis ou qu'ils nous ont été légués comme testament par notre famille ou par notre culture.
Précisément, d'ailleurs, quand ils nous ont été transmis de manière à ce qu'au fond, nous n'ayons pas, en tant que sujet, la capacité à les remettre en cause. Et dans la citation que vous avez donnée tout à l'heure, quand Kant écrit « Notre siècle, c'est le siècle de la critique », et c'est donc le 18e, oui. Eh bien, donc les Lumières, il ajoute immédiatement que la religion, mais aussi la législation, donc disons l'État, ne peuvent pas s'y soustraire. Si elles veulent s'y soustraire, si elles prétendent ne pas être du tout critiquées, alors elles éveillent, dit Kant, un soupçon tout à fait légitime par rapport à leur autorité. Et donc, par conséquent, critique, ça a d'abord le sens de ne pas vouloir jouer le jeu immédiatement de la tradition, mais d'interroger, et ça c'est le geste de Kant central, je dirais, oui. Interroger ce que nous pensons lorsque nous croyons, interroger ce que nous faisons lorsque nous obéissons, interroger ce que nous sentons lorsque nous avons, par exemple, une expérience esthétique.
Donc, Kant, qui ne pense pas que la philosophie a pour vocation de produire un savoir positif, une doctrine sur Dieu, sur la liberté, sur l'âme, mais au contraire, parce qu'il y a une dimension positive à l'activité critique, de réfléchir aux conditions de possibilité d'un discours vrai sur Dieu, sur l'âme, sur la liberté.
Voilà, ne pas prendre les discours qui, aujourd'hui encore, si je puis dire, s'énoncent à propos de Dieu, de l'âme, de la liberté, de l'humanité, de notre essence, ne pas les prendre au pied de la lettre, mais essayer de leur donner un sens rationnel. C'est-à-dire, qu'est-ce que l'on peut dire de Dieu qui ne dépasse pas notre capacité de connaître, de comprendre, au fond. Et c'est ça le sens du mot, de la méthode kantienne, qui est un mot peut-être un peu barbare, qu'il appelle la méthode transcendantale, oui. Si on essaie de le simplifier au maximum. Transcendantale, cela veut dire, la méthode transcendantale, ne pas s'interroger simplement sur ce qu'est Dieu, par exemple, ou la liberté ou l'homme, mais réfléchir aux conditions de possibilité qui nous permettent de dire quelque chose de vrai ou de juste sur le monde, sur Dieu, sur la liberté. C'est faire un pas en retrait derrière toutes les affirmations dogmatiques telles qu'elles traînent dans les églises, parfois dans les États et aujourd'hui dans certains médias, pour essayer de comprendre ce qui nous permet de dire, par exemple, que l'homme est libre.
Transcendantal, c'est un mot qui fait peur. Il faut le distinguer de ce qui est transcendant. Dieu est transcendant. Le ciel des idées séparées du monde est transcendant. Transcendantal, on pourrait le traduire par condition de possibilité. Il y a une phrase qui est extrêmement importante dans un essai qu'il a publié en 1784. L'essai, c'est « Qu'est-ce que les Lumières ?» Et il dit « Sapere aude » en latin « Ose te servir de ton propre entendement ». C'est ça la démarche critique ?
C'est la démarche critique des Lumières, effectivement, parce que oser se servir de son propre entendement, c'est s'arracher au système de croyances que nous avons effectivement hérité.
Mais il faut refonder, il faut abolir avant de refonder, parce qu'il dit « j'ai dû abolir le savoir pour laisser une place à la croyance ».
Oui.
Et alors ça aussi, c'est source de malentendus.
Parce que croyance, il n'y a qu'un seul mot en allemand pour dire croyance et foi, et certains ont traduit le mot en question, Glaube, par foi. En réalité, ce que Kant est fondamentalement, c'est un philosophe de la finitude. Le savoir qu'il a voulu abolir, c'est le savoir métaphysique, au sens, le savoir, vous l'évoquiez, du transcendant, ce qui porte sur ce qui est au-delà de l'expérience, Dieu par exemple, de l'expérience, pardon. Et ce savoir-là nous est interdit, à nous autres hommes, parce que les humains, nous percevons le monde dans l'espace et le temps, ce que nous pouvons connaître, nous pouvons le connaître dans la nature. C'est la science physique qui nous permet de connaître la nature. Mais la métaphysique, ce qui est au-delà de la nature, nous n'en avons pas de connaissance, ce qui ne veut pas dire que nous n'avons aucun rapport à l'absolu, on y reviendra peut-être.
Oui.
Mais ce qui est important dans le sapere aude, c'est aussi cette idée qu'il faut avoir le courage de la vérité. C'est-à-dire qu'il faut oser utiliser notre entendement, notre capacité de penser. Précisément, c'est comme un saut solitaire, en quelque sorte, dans le vrai, sans nous, sans arrêt, et ça vaut peut-être aussi même dans des dissertations de philosophie, sans précisément se référer toujours à des autorités. Hein. C'est-à-dire oser penser par soi-même. voilà, ne pas penser que parce que Aristote dit quelque chose ou toute autre autorité, hein, je dirais contre Aristote en particulier, oui, cela vaut comme vérité et comme évidence.
Non, mais c'est l'ensemble des savoirs, des dogmatismes de l'intelligence artificielle, on dirait, aujourd'hui, et c'est vrai qu'il réveille la philosophie de ce qu'il appelle son sommeil dogmatique.
En ce sens, il est woke, si vous voulez.
Il
favorise l'éveil au sens littéral. C'est-à-dire que la position critique, c'est une position d'éveillé. Et que ceux qui pensent qu'il faut rester endormi sur, je dirais, ou sur ses lauriers, ont une position qui est une position dogmatique. Il se réveille de son sommeil dogmatique. Cela renvoie justement au fait qu'il devient kantien sur le tard. Il a été un philosophe dogmatique, en un sens, pendant une trentaine d'années. Il était professeur à l'université. Oui. Et il a un choc, plusieurs chocs philosophiques qui le font douter, et le doute, là, dans la tradition cartésienne, Kant en fait une vertu, douter de ce qu'il a toujours cru sur les savoirs à propos de Dieu, de l'âme, de la liberté et même de la science. Et au fond, il nous rappelle en permanence que le savoir ne doit pas devenir un dogme, c'est-à-dire quelque chose qu'il nous faut répéter et qui nous endort, en quelque sorte.
Mais il faut remonter aux conditions de possibilité, je le disais, à ce qui est a priori. Alors ça aussi, c'est une expression qui est souvent mal comprise. A priori, il y a la dimension de l'espace et celle du temps, et c'est ce qui nous permet d'avoir un rapport au monde, de connaître et de comprendre le monde.
A priori s'oppose à a posteriori, donc ce qui est a priori, c'est ce qui précède au fond toute forme d'expérience. Alors quand vous le dites justement, l'espace et le temps par exemple sont a priori, ça veut dire que les formes de notre perception sont l'espace et le temps, et elles sont universelles, c'est-à-dire que tout être humain perçoit dans l'espace et dans le temps, il perçoit les choses dans l'espace et dans le temps. Donc a priori,
c'est pas un relativisme total.
Non, ce n'est pas un relativisme.
Ça permet même d'avoir des lois physiques, les lois de la nature, les lois de Newton, celles de Copernic, mais nous ne connaîtrons jamais que le champ des phénomènes.
Le champ des phénomènes, de ce qui apparaît, donc, parce que tout ce qui apparaît, par exemple, dans le temps. Autrement dit, c'est universel, mais c'est universel pour nous les hommes. Donc ce n'est pas relativiste, mais par contre, ce n'est pas non plus absolutiste, si je puis dire, parce que ça veut dire, ou ça implique, par exemple, que si Dieu existe d'abord, et si Dieu perçoit, lui ne percevra pas dans le temps. Le temps, c'est la dimension de l'expérience humaine, mais elle vaut pour tous les hommes. Et par conséquent, lorsque nous connaissons un phénomène dans la nature, temporel, eh bien, c'est une connaissance physique qui vaut pour tous, mais qui effectivement ne vaut pas pour ce que Kant appelle les choses en soi. Il oppose phénomène et choses en soi. Ça ne vaut pas pour l'être qui nous est caché. Nous ne sortons pas de la caverne, en quelque sorte, pour pouvoir découvrir le soleil, comme chez Platon.
Le ciel des idées.
Voilà, le ciel des idées. Mais par contre, dans la caverne, si je puis dire, dans notre monde, dans notre nature, il y a des lois physiques et elles sont universelles et elles sont connues a priori.
Et il y a une image qui illustre cette révolution qu'il accomplit dans l'ordre du savoir. C'est l'image de la colombe. Alors, on est assez surpris. C'est une colombe qui pense qu'elle volerait beaucoup mieux si il n'y avait pas la résistance de l'air. On trouve l'image dans la Critique de la raison pure. Qu'est-ce qu'elle raconte, cette image? Je cite Kant, « Lors de son vol libre, alors qu'elle fend l'air dont elle éprouve à cette occasion la résistance, la colombe légère pourrait se représenter qu'elle serait bien plus efficace dans un espace vide d'air. » En vérité, sans la résistance et sans l'air, la colombe tombe.
Voilà, mais elle ne le sait pas. Et la colombe, elle désigne les rêves métaphysiques, un peu platoniciens, disons, que Kant critique, c'est-à-dire la tentation et surtout le désir humain de s'élever, hein, comme la colombe, de s'élever au savoir de ce qui dépasse, de transcendant, vous le rappeliez tout à l'heure, ce qui dépasse notre expérience.
Ce qui dépasse l'entendement également.
Ce qui dépasse l'entendement et que Kant appelle raison d'ailleurs. La raison, c'est cette puissance, c'est ce désir, au fond, c'est le premier à penser un peu la raison comme un désir, c'est notre désir d'accéder à l'absolu. Et la colombe, elle s'élève peut-être très haut, mais elle ne se rend pas compte qu'elle ne peut s'élever que grâce à la résistance de l'air, autrement dit grâce à la matière. Et d'une certaine manière, la métaphysique, elle doit être pour Kant une manière de penser ce qui dépasse notre expérience, en sachant que nous ne pourrons pas le connaître, parce que l'expérience, la matière, la résistance de l'air sont les dimensions de notre existence.
Est-ce que c'est paradoxal qu'au moment où l'on prouve scientifiquement que l'univers est infini, vous rappeliez Copernic, lui, il s'intéresse à l'homme dans sa finitude, justement, à l'idée que nous n'aurons jamais d'autres connaissances qui échapperaient à notre intuition sensible.
Bah, c'est paradoxal si l'on considère que l'infini, c'est forcément à l'infini pour la connaissance. Mais le grand geste de Kant, c'est de montrer qu'en réalité, nous avons bien un rapport à l'absolu, mais ce rapport à l'absolu, à l'infini, c'est un rapport pratique, moral, politique. Et c'est en quoi, d'ailleurs, c'est aussi un philosophe, là, on y reviendra sans doute, révolutionnaire au sens strict. C'est-à-dire, au fond, il déplace l'absolu du champ de la connaissance, du savoir.
Que puis-je savoir,
pour pouvoir accéder à la grande question qui va motiver sa deuxième grande œuvre, que dois-je faire, et montrer qu'en réalité, le vrai absolu, c'est la liberté, et que nous sommes des êtres finis, certes, mais nous sommes appelés, destinés à une action morale infinie.
Merci Michael Fessel.
Merci
à suivre, Kant, la morale et la liberté.